Merci. On va pouvoir passer à la partie débat. J'ai une remarque. La dynamique des réseaux sociaux, ça part du bas. C'est les gens eux-mêmes qui se mettent en relation. Et il y a une espèce d'énergie vitale. Le développement des réseaux était extraordinairement rapide. Et ce qui est frappant, c'est que dans l'entreprise, on sent qu'il y a toujours un balancement entre top et down. C'est-à-dire, on veut qu'il y ait un partage, donc les gens en bas s'en saisissent, donc down. Mais finalement, c'est quand même, quelquefois, dans le cas de Lafarge, c'est top. Alors, la question, c'est quand on lance d'en haut, comment faire pour que les gens d'en bas s'en saisissent sans qu'ils aient l'impression d'être manipulés, surveillés, épiés, poussés, ce qui ne doit pas être très facile. J'avais été frappé dans ce qui avait été dit pour le cas de Lafarge, l'expression « expliquer à quoi ça va leur servir ». Je me suis dit, si on doit expliquer à quoi un réseau doit servir, on peut s'inquiéter parce que normalement, dans les usages des réseaux sociaux ordinaires, les gens découvrent tout seuls à quoi ça va servir. Ils sont d'une créativité extraordinaire. Soit c'est un mode d'emploi qu'il faut expliquer, qui demande un petit peu de temps, soit il y a un paradoxe.
Alors, dans le réseau, il y a un mode d'emploi de toute façon, parce que même si on dit c'est évident, l'interface est friendly, etc., il y a friendly aux États-Unis et puis il y a friendly dans le sud de la Moldavie, je peux vous dire, c'est un peu différent, ou en Chine ou ailleurs. Ça, c'est une première chose. Et expliquer à quoi ça va leur servir individuellement. Moi, j'ai bien parlé de knowledge management collaboratif. Le but du jeu, c'est de mettre des bonnes pratiques et que les gens viennent renchérir dessus et disent « Bah non, moi, j'ai pas fait comme ça dans mon pays, j'ai fait autrement. » Et il faut que les gens comprennent. C'est pas seulement « je discute sur un sujet », c'est « je parle autour d'un sujet » très terrain, très opérationnel. Et donc, il faut que les utilisateurs comprennent qu'individuellement, ça va leur servir à quelque chose. C'est pas parler pour parler, c'est si je donne une bonne pratique, individuellement, qu'est-ce que ça va faire? Ben, individuellement, tu vas devenir expert, tu vas pouvoir faire des voyages et développer cette bonne pratique ailleurs, tu vas être interviewé, tu vas faire partie d'un réseau, etc., etc. Je parle vraiment de knowledge management collaboratif et pas seulement de réseau. Les gens pour lesquels les participants au réseau social et purement réseau social, qui est le même que celui de Gabriele, on leur explique pas à quoi ça sert. Effectivement, ils font un parallélisme extrêmement rapide entre ce qui se passe sur Facebook et ce qui se passe dans le réseau d'entreprise. Là, c'est un petit peu différent. On leur demande de travailler et de mettre en commun le travail qu'ils ont fait chez eux, même si ça va permettre à la centrale à béton d'à côté ou à l'usine de ciment du pays d'à côté d'avoir des résultats meilleurs que les leurs.
Et dans ce que disait M. J.C. Decaux, l'expression qui revenait souvent, c'est expliquer, expliquer, former, expliquer. Donc ça veut dire qu'il y a une inertie au départ, force d'inertie à vaincre au départ.
L'inertie, c'est le classiquement des habitudes. Je pense que si c'est un problème de riche, et c'est pas totalement fou. Les utilisateurs et les salariés des entreprises sont un peu repus d'outils. Donc quand on arrive avec quelque chose qui est certes une plateforme géniale avec des potentialités intéressantes, ils disent bah, « je vais voir ». Et voilà. Pour revenir à votre question, enfin à votre remarque sur le top and down, moi tout à l'heure quand je parlais de cette espèce de cocktail gagnant et souvent chez nous à succès, on mélange un peu de contraintes et un peu de, je dirais, d'envie. C'est un peu lié à ça, c'est-à-dire que nous on a la chance d'avoir sur le projet d'avoir deux beaux sponsors, notamment une directrice commerciale française et qui a beaucoup contribué au succès. Et elle montre l'exemple d'abord en tant que dirigeante. Elle est connectée au mobile, etc. Elle répond. Souvent quand elle suscite des choses autour de l'usage du réseau social dans son équipe, c'est en mixant les deux, c'est-à-dire elle impose un peu des choses, elle dit c'est là que ça se passera, mais en même temps elle trouve des idées au sein de son équipe pour que ce soit pas non plus que de la contrainte. Et ça marche assez bien, notamment avec les populations commerciales, donc chez nous, mais je pense qu'on fait pas exception à la règle, sont assez individualistes, sont assez débordées et sont, comme on vient de le dire, attendent un peu quand elles voient arriver un nouvel outil, attendent de voir si elles y vont ou pas. Voilà.
Jacques Boivin.
Je voudrais savoir si dans les réseaux sociaux, en particulier ceux qui donnent satisfaction, il y a des règles implicite ou explicite, éventuellement intégrée à la plateforme. Parce que s'il n'y a pas de règles, si tout le monde peut parler avec tout le monde, c'est le degré zéro de l'organisation. Et d'autre part, est-ce qu'il n'y a pas intérêt à favoriser des communautés avec des gens qui ont des préoccupations analogues ou complémentaires, et en particulier qui ont le même horizon temporel? Les gens qui sont dans l'exploitation courante, les gens qui voient à 6 mois, et éventuellement un peu plus haut.
La réponse à votre deuxième question est contenue dans la première. C'est-à-dire que quand vous dites « si tout le monde peut parler avec tout le monde, il n'y a plus d'organisation », je ne suis pas d'accord avec vous. C'est justement le postulat de base pour moi du réseau social, c'est que tout le monde parle à tout le monde, donc il n'y a pas de règle à ce niveau-là. Ça ne veut pas dire qu'on est hors sol, mais justement ça fonctionne parce que l'entreprise a une organisation et ce n'est pas parce que vous échangez avec, je dirais, potentiellement tout le monde que vous n'avez plus de chef, que vous êtes pas, vous devez pas être loyal, faire du reporting, etc. Voilà, on n'est pas hors sol. Et ça, les salariés le savent bien. Et en plus, je dirais, à l'identique dans un réseau social externe, quand ils s'expriment sur un réseau social, ils mettent en jeu leur réputation professionnelle interne. C'est-à-dire qu'ils vont pas raconter n'importe quoi. Donc par rapport aux grandes peurs, qui sont des peurs de notamment d'équipes dirigeantes, qui ont des dérapages, Quand on regarde tous, les gens, même dans des entreprises immenses, les dérapages se comptent quasiment sur les doigts d'une main. Et parfois même, quand il y en a, il y a même une espèce d'auto-régulation. Donc je vous contredis sur votre première question. Et je dirais que pour que ce que vous aimeriez faire dans votre deuxième question arrive, il faut justement cette liberté. C'est-à-dire qu'il faut laisser les gens se fréquenter par intérêt, qui peut être l'intérêt temporel dont vous parliez, l'intérêt professionnel sur un sujet particulier, qui peut ne pas être le sujet sur lequel vous êtes officiellement en train de bosser. Vous pouvez, par exemple, fréquenter une communauté de développement durable quand vous êtes une personne de marketing et que vous n'êtes pas censé travailler sur le développement durable. Mais pour l'entreprise, c'est un gain d'avoir un marketeur qui développe sa culture en développement durable parce que demain, ça peut lui servir, par exemple, à développer une offre intéressante par rapport à des demandes clients qui deviennent plus exigeantes sur le développement durable, par exemple. Nous, on le voit, par exemple, se produire.
Je vais renchérir, hein, c'est exactement ce qui fait la richesse de l'entreprise. Alors, en revanche, en fonction de l'utilisation de l'outil, pour le knowledge management, comme je vous l'ai dit, c'est très très proche des opérations, donc il y a une gouvernance forte et tout le monde ne met pas n'importe quoi. C'est un workflow qui est un peu mis en place parce que quand on propose des idées, en fait, ce n'est pas des idées sur le knowledge management, on propose des faits et des bonnes pratiques, donc elles doivent être vérifiées, validées. En revanche, sur le réseau social, il n'y a aucune gouvernance. Les gens peuvent ouvrir tous les groupes qu'ils veulent, parler de ce qu'ils veulent, à qui ils veulent, il n'y a aucun problème. Le seul problème qu'on a vu a posteriori, c'est que s'il n'y a aucune gouvernance, le premier réflexe des utilisateurs, c'est de recréer les silos. Donc le but étant que les gens partagent, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils recréent des espaces privés et on recrée des silos par manque de gouvernance. Donc il faut être assez vigilant là-dessus.
Je suis complètement d'accord. Et chez Sodexo, justement, l'effet qu'ils ne peuvent pas créer tout seuls des communautés, c'est justement pour éviter ces problèmes. Mais en fait, quand on est sollicité pour la création d'une communauté, la première chose qu'on fait, on regarde s'il y a des communautés similaires qui existent et à la personne, on l'invite à rejoindre une communauté existante, à devenir un co-animateur de la communauté parce que l'autre problématique après, c'est quand on crée une communauté, il faut la faire vivre. Et donc, on a besoin d'animer et de répondre à des questions. Donc, l'idée qu'on a trouvée, c'est de dire justement de créer des synergies dans ce sens-là, de faire cohabiter des personnes et se partager la tâche.
Mais comment s'est organisé Sodexo? Parce que j'imagine que c'est des milliers de restaurants, d'installations. C'est-à-dire qu'il y a des milliers de petites équipes de taille relativement restreinte et avec quelques responsables. Et qu'est-ce qui interagit? C'est au niveau de l'équipe ou c'est à d'autres?
Alors, ça dépend. Par exemple, on a lancé en France, on a lancé une communauté. C'était une communauté justement pour partager les nouveautés ou les bonnes pratiques au niveau des sites. Les sites de travail. Et la personne qui gère ça, c'est la responsable. C'est même pas la responsable. C'est une personne qui travaille dans l'équipe de l'innovation d'une des divisions. Et donc, ils ont lancé clairement ça. Ça fait à peu près 4 mois. Et les responsables des sites de cette division, ils se sont inscrits et ils commencent à mettre à jour des bonnes pratiques qui sont visibles pour les responsables des sites, des autres sites. Donc, des personnes qu'ils ne se connaissaient pas à la base. La chose qu'on a constatée, c'est que la nouvelle s'est répandue et maintenant on a des responsables des d'autres divisions qui ont demandé de faire partie. Donc ils arrivent et ils participent. Donc c'est dans ce sens-là, l'idée d'avoir un garde-fou, c'est justement pour s'assurer qu'ils ne recréent pas un petit des autres silos en fait. Alors après, ça dépend vraiment des barrières qui sont des barrières. En première barrière, c'est la barrière de la langue et aussi c'est aussi la barrière du typologie de thème. Parce que les responsables des sites, qui sont des restaurants d'entreprise, sont différents des responsables des sites qui sont, par exemple, des hôpitaux. Voilà. Donc, du coup, les personnes, ils partagent plutôt de les personnes qui font partie de leur groupe.
Sur la question de tout le monde peut parler à tout le monde grâce aux réseaux sociaux, une petite précision quand même, en fait, d'après les chiffres du Credoc en 2013, donc très récent, 45% des salariés en France n'ont pas accès à un ordinateur. Donc on voit bien que même dans une entreprise où il y aurait un grand réseau social et où il y aurait un grand nombre d'utilisateurs, on voit qu'il y a quand même une grande partie de l'entreprise qui n'a pas accès au réseau social, ou en tout cas pas sur ordinateur. Et peut-être qu'aujourd'hui, comme disait Gabriel, si demain chacun sur son téléphone portable peut utiliser le RSE, ça permettra de le développer plus qu'aujourd'hui. On voit qu'il y a quand même une grande partie des salariés qui n'ont pas accès à ce type d'outils.
J'ajouterais une chose, parce que le côté tout le monde parle à tout le monde, c'est un côté un peu Woodstock. Ce qui est intéressant dans le réseau social, c'est qu'on peut tout avoir. C'est-à-dire qu'on peut avoir des communautés très grand public où, effectivement, tout le monde parle à tout le monde et, à la limite, quelqu'un qui n'est pas du métier interagit avec des gens qui sont vraiment du métier ou posent des questions, interpellent, etc. et apprend des choses. Mais on peut avoir aussi des micro-communautés de 5 personnes confidentielles dont le nom n'apparaît même pas pour travailler voilà, dans une certaine intimité, pour ne pas dire dans une intimité certaine, voilà, sur un projet vraiment minuscule, très stratégique, mais minuscule et non visible. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir gérer aussi tout ça, parce qu'on peut aussi avoir des interactions à 4-5 personnes et productives.
Tout à fait. Et pour revenir à la question, nous, on a les sites, la façon de laquelle la plateforme est structurée. Il y a des communautés un peu de toutes les typologies. Et on a un espace spécifique, c'est un mur. Nous, on l'appelle le mur. Et c'est vraiment dans cet endroit-là, les personnes écrivent quand elles veulent s'adresser à toutes les personnes qui sont sur la plateforme. Mais ils ne font pas ça tout le temps. C'est vraiment quand ils vont arriver à avoir l'intelligence de tout le monde, comme si on envoyait un email à toutes les personnes.
Oui, Rivine, professeur à l'École des Mines. Je suis en voie à une grande perplexité. Et les dernières interventions de la tribune n'ont pas amélioré la publicité en question. Si vous voulez, je retiens que toute la Terre entière est connectée aujourd'hui à la Terre entière. On a l'habitude de dire qu'aujourd'hui, n'importe quel être humain peut joindre n'importe quel autre en 5 clics ou 6. Bon. Alors, je vous entends parler d'un ensemble, un sous-ensemble, qui s'appelle le réseau social d'entreprise, qui a une substance très bien délimitée. Alors, ça pose les problèmes suivants. D'abord, quels instruments interviennent là-dedans? J'énumère. Téléphone, tablette, mail, ordinateur, vidéoconférence, plateforme collaborative. Comment ces objets-là interviennent dans l'entité dont vous êtes en train de parler? Point suivant, comment fait-on pour imposer l'existence d'un tel réseau? Et comment on fait pour limiter ceux qui y ont accès? Point suivant, comment gère-t-on la quantité d'informations qui passent là-dessus? Parce qu'on ne peut écouter qu'une chose à la fois, on ne peut lire qu'une chose à la fois, et les hommes d'affaires vous disent couramment qu'ils trouvent 500 mails sur leur ordinateur tous les matins. Je ne sais pas très bien comment on fait pour faire face à une pléthore pareille. On met des antisparmes toujours, mais il n'en reste pas moins qu'il y a là-dedans du valable et de l'inutile. Question suivante, comment on fait pour contrôler le contenu? Quelqu'un parle de ciment, et là-dessus dit « j'ai à vendre des merguez ». Comment peut-on empêcher qu'ils vendent ces merguez sur le réseau ciment? Et après tout, est-ce qu'on l'empêche? Donc, je serais, pour ma part, demandeur d'une description technique précise de comment on fait et comment on empêche.
Alors, je vais vous parler de merguez. En fait, je l'ai dit tout à l'heure, sur notre plateforme, comme on est très près du terrain, et je vous ai dit qu'il y avait un réseau de 80 knowledge managers. C'est-à-dire que les gens, quand ils mettent quelque chose en ligne, ça va dans leur boîte privée, et les knowledge managers sont avertis qu'il y a un document dans la boîte privée, ils le récupèrent, ils le font valider par le patron de la personne qui l'a mis, pour être sûr que techniquement c'est intéressant, par des experts, et ensuite c'est mis en ligne. Ça, c'est une première chose. Donc, il y a un workflow qui est mis en ligne. Et il y a même des workflows qui sont extrêmement rigoureux pour le ciment, typiquement, où il doit y avoir 4 validations pour que le document arrive finalement à être visible par le public. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, on me dit toujours, oui, mais vos documents, est-ce qu'ils sont valables comme ça, ad vitam aeternam? Ben non, il y a des dates de validité. Le document, il est valable 2 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, en fonction de ce qu'a décidé l'auteur. Et au bout de 2 ans, on lui dit, ben ton document, il devient quoi? On l'archive, on le détruit, on met une nouvelle version. Et donc, on suit la validité des documents parce que les utilisateurs veulent savoir qui l'a mis en ligne, depuis quand ça a été mis en ligne, est-ce que c'est la dernière version. Donc, les outils, et c'est pourquoi je disais, il faut choisir l'outil qui va bien, les outils, enfin l'outil que j'ai choisi en tout cas, permet ça. Et il y a un certain nombre d'outils qui ne le permettent pas, et c'est pourquoi on ne les a pas choisis. Ça, c'est une première chose. Donc, vérification du contenu. Vérification de la validité, suivi des gens. Ensuite, comment on fait pour que n'importe qui rentre pas? Eh bien, il faut aussi avoir l'outil qui correspond à ce qu'on cherche. Et nous, on voulait que seuls les personnels de la Farge puissent accéder à la plateforme. Et en plus, ces plateformes-là sont faites de telle manière à ce qu'on puisse créer des, comme l'a dit Gabriele, des espaces qui soient publics, semi-publics ou complètement privés. Et on donne des accès aux gens, plus ou moins ouverts sur des espaces. Et ensuite, comment faire pour que les gens gèrent ce qu'ils reçoivent sur leur boîte email ou en alerte sur la plateforme? Eh bien, ils choisissent les espaces dans lesquels ils veulent être membres. Si je travaille au ciment et que je suis intéressé par la fabrication au ciment, je vais devenir membre de 2 ou 3 espaces. Il ne faut non plus pas rêver sur la mise en œuvre de ces types de plateformes. Il n'y a pas 30 000 messages par jour sur la fabrication du ciment ou le broyage du clinker. S'il y a 1 document par semaine et 4 commentaires par semaine, c'est beaucoup. Donc quand on est interrogé là-dessus, on a ça et on suit l'information que l'on veut suivre. Si on est membre de 3 ou 4 espaces qui nous intéressent, on reçoit 3 ou 4 mails par semaine et on peut même faire en sorte de recevoir un seul mail par semaine avec toutes les alertes et toutes les informations. Donc il faut, encore une fois, savoir ce qu'on veut en faire. Alors sur les réseaux sociaux, quand on ne sait pas s'en servir, et on a, je le répète, le même que Gabriele, et au début on se dit « ok, je m'inscrire à tout, tout m'intéresse », effectivement on reçoit 300 mails par jour. Et là, on gère ces alertes. On gère ces flux d'informations, on apprend à s'en servir. C'est une nouvelle approche du travail, une nouvelle approche collaborative, et il faut être très prudent sur ce qui nous intéresse, sur quoi on veut être averti. Et à partir du moment où on sait s'en servir et on a appris, parce qu'il faut former les gens, eh bien on reçoit exactement ce que l'on veut recevoir et on n'est pas complètement envahi, sous les flux d'informations. Mais c'est un vrai boulot. Ça, c'est un vrai boulot et c'est surtout un nouveau boulot qu'il faut apprendre à faire. Il faut apprendre à se servir des outils, il faut apprendre à gérer le flux d'informations. Et c'est pourquoi, encore une fois, il ne faut pas laisser les gens seuls. Parce que sinon, au bout de deux jours, ils disent « Attends, 400 mails par jour, je ne peux pas le gérer, j'arrête tout. »
Pour revenir sur la première question, sur comment on s'y retrouve finalement entre le téléphone, le mail, les webconférences, les RSE, etc. Effectivement, chaque outil de communication a son propre usage, en fait. Et le problème, en fait, c'est qu'effectivement, souvent, les outils, en fait, sont mal utilisés. L'exemple le plus simple, c'est l'email. L'email, c'est un outil de communication asynchrone. Normalement, contrairement au téléphone, on n'a pas besoin que la personne soit disponible en même temps que nous pour correspondre avec elle. Malheureusement, on voit bien qu'avec l'email, parfois, on envoie un email, on attend que la personne ait une réponse dans les 5 minutes. Donc là, on voit que c'est un mauvais usage, en fait, de l'email. Dans les RSE, effectivement, au départ, on se rend compte qu'il y a parfois des mauvais usages, au sens où ce n'est pas fait pour avoir une réponse dans les 5 minutes. Quand on envoie un message dans une communauté, par exemple, c'est plus pour partager de l'information ou de poser une question sans attendre nécessairement la réponse dans les 30 secondes. Sinon, on prend son téléphone, on appelle la personne en question. Et justement, c'est un peu le rôle du community manager, du manager de la communauté, de faire en sorte que les mauvais usages qui peuvent exister au départ soient éliminés au fur et à mesure pour que les gens apprennent à utiliser l'outil. Et donc finalement, quand on parle de formation, d'expliquer, etc., c'est pas seulement une formation technique, parce que c'est assez simple, les outils qui existent, on les retrouve. Quand on utilise Skype, par exemple, envoyer un email ou poster un message sur une communauté, c'est quasiment identique. Ce qu'il faut apprendre, c'est surtout l'usage, savoir le bon usage avec le bon outil.
Par rapport à votre question, monsieur, je pense que la tendance, c'est d'intégrer tous ces outils, c'est-à-dire faire que, à la limite, ce soit un seul geste. Alors après, avec des usages différents, je suis d'accord avec vous. Mais par exemple, il y a des réseaux sociaux qui vous permettent de transformer des discussions. L'email n'est pas du tout un outil pour faire du forum ou de la discussion. Mais il arrive que dans des emails, vous m'écrivez, je vous réponds, Denis répond, et on se retrouve à 4-5 à discuter par mail. Ça arrive dans les entreprises assez fréquemment, ce qui est un désastre. On a maintenant dans les outils, dans certaines plateformes de réseaux sociaux, des fonctionnalités d'intégration à votre outil de messagerie qui permet de transformer cette chaîne de 4-5 emails en discussion que vous déplacez sur la plateforme collaborative pour cette chaîne d'emails totalement inutile puisqu'elle ne concerne que vous quatre, à la limite bénéficie au plus grand nombre qui sont par exemple les membres de la communauté que ça concerne. Donc on va vers ça. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que le réseau social, finalement, re-questionne des usages. On s'aperçoit notamment, alors moi j'ai horreur de la vente qui a été faite des réseaux sociaux, on disait c'est le truc qui va tuer les emails parce que dans les entreprises on a vendu ça comme ça, notamment pour faire croire qu'on allait faire des économies. Ça a été une catastrophe parce qu'en effet, ça n'a pas tenu ses promesses et on a affublé au réseau social une étiquette qui n'est pas la bonne parce que c'est pas ça la promesse, c'est une promesse très peu ambitieuse, je trouve, même si l'email est un fléau. Mais ceci étant dit, ce qui est intéressant, c'est de re-questionner les usages et de se dire que, comme disait Denis, l'email doit être utilisé uniquement dans certains cas et de basculer des choses, notamment pour des questions de gestion des connaissances, que ce qui circule dans les boîtes email, c'est souvent une richesse qui est totalement inexploitée. C'est même pire qu'une armoire remplie de dossiers papier, parce que l'email est assez jetable. Donc il y a un vrai enjeu par rapport à ça.
Thierry Hernandez.
Oui, merci pour ces informations. Vous avez à peu près tous parlé de ROI, de retour sur investissement. Est-ce que vous pouvez nous dire de quel montant il s'agit dans chacune des sociétés? Par ailleurs, le problème de la sécurité a été évoqué. Or, dans les exposés faits par les trois sociétés, apparemment, ce sujet n'en est pas un. Est-ce que vous avez des informations ou des renseignements donnés sur l'attitude des entreprises américaines qui sont plus sensibilisées que les entreprises européennes et en tout cas françaises sur le problème de la sécurité? Et donc, si oui, pouvez-vous nous donner quelques informations là-dessus?
Moi, ce que je peux dire, pas vraiment pour les Américains, mais je peux dire que nous, quand nous avons mis en place notre réseau social d'entreprise, on s'est fait tester pour un hacker qui était pris pour notre responsable financier sans qu'il nous dise rien. Donc, la deuxième réunion que j'ai eue avec mon responsable financier et qui m'a mis au courant qu'on était testé pour un hacker et que c'était bien passé, en fait, j'étais en train de me dire que j'ai risqué d'être viré. Non, nous avons... C'était un vrai hacker, c'était un hacker, les blancs, les hackers blancs, c'est-à-dire c'était une société externe, comme il existe plusieurs, qui sont payés pour rentrer dans votre système. Et donc, notre directrice financière, donc moi, je ne savais pas, sans qu'ils ne sachent rien, hein, donc, elle a commissionné... c'est la directrice financière qui nous a fait ça, ouais. Donc, c'est très bien passé parce que... Non, elle n'a pas réussi, donc les systèmes étaient plutôt bien. Nous, on est en solution SaaS, en plus. Solution as a service, c'est-à-dire que vous n'avez pas chez vous les serveurs... Les serveurs sont chez les prestataires et que vous avez accès à cette information à travers l'Internet. Donc, vous aussi, comme utilisateur, vous n'avez pas vraiment l'information chez vous. Contrairement à quand vous avez votre serveur chez vous derrière votre, comme on a dit, firewall, hein, dans votre espace privé. Et donc, nous, on a fait ça, donc on a eu des analyses, on a vérifié la sécurité du système.
Il y a des grandes peurs sur la sécurité au moment des lancements, mais ça passe assez vite. Nous, on les a eues. Mais c'est vrai qu'il y a une suspicion qui a été assez forte sur les réseaux sociaux d'entreprise. Alors, nous, ce qu'on répond habituellement, c'est que est-ce que c'est pire que l'email ? Est-ce que c'est moins sécurisé, plus sécurisé ? Est-ce que c'est pire qu'un de vos dirigeants qui oublie sa valise dans un train ou qui parle dans un lobby d'hôtel d'une stratégie ? Je pense pas. Donc, il faut remettre les choses à sa juste valeur. Moi, personnellement, sur le mode SaaS, je suis assez précautionneux, on va dire, parce que la plupart des entreprises, il faut savoir où elles hébergent vos données. Parce qu'il y a l'hébergement de l'applicatif qui est chez eux, et ça me semble pas illogique qu'ils hébergent leur propre application chez eux, mais derrière vos données, où sont-elles ? Quand vous connaissez le Patriot Act et que vos données sont hébergées aux États-Unis, le Patriot Act, en théorie, permet à l'État américain, mais qui est l'État américain et que fait-il de ces informations, d'accéder potentiellement à vos données assez facilement. Donc nous, on a fait un choix différent, ce qui est très compliqué commercialement parce que les éditeurs logiciels poussent pour ce système cloud hébergé chez eux. Donc héberger chez vous, c'est à la limite nager à contre-courant par rapport aux offres commerciales actuelles et c'est assez compliqué.
Pardon. Oui, sur le coût, on imagine, c'est quand même pas très cher, ce dispositif.
Ah oui, les coûts.
Ça dépend du fournisseur. Alors pour la sécurité, il y a deux points. Il y a un, l'accessibilité aux données. Ça, c'est une première chose. Alors après, on choisit le fournisseur que l'on veut ou l'hébergement que l'on veut, en cloud, enfin en SaaS ou pas en SaaS. On fait des vérifications. Pour ce qui est de l'accessibilité aux données, nous, on a fait des tests. A priori, ça ne pose pas de problème. Et nos données sont hébergées en Belgique. Donc comme ça, on est cool. En revanche, il y a une chose qui est importante, c'est l'extraction de données par le personnel. Et ça, c'est un danger parce que les gens peuvent prendre des datas et pour les balancer vers l'extérieur. Et là, c'est un vrai risque. Et nous, on a fait développer un algorithme qui fait que si une personne tire un peu trop de data sur un trop court laps de temps, on lui ferme son compte automatiquement. Et après, on s'adresse à son patron pour savoir effectivement si cette personne a le droit ou pas ou est désignée pour aller extraire beaucoup de data en peu de temps. Et donc, on évite ça parce qu'on a eu une mauvaise expérience une fois.
Sur la question du coût, je ne sais pas si les entreprises ici voudront répondre, mais parmi les entreprises que j'ai interrogées, toutes m'ont dit que ça coûte moins cher par mois d'avoir un RSE que de payer le smartphone d'un collaborateur. Donc si on fait cette comparaison...
Par collaborateur. C'est pas faux. En fait, ça dépend essentiellement de ce que vous faites. Si vous faites un réseau ad hoc, sur mesure, avec des développements très lourds, là ça peut coûter très très cher et le retour sur investissement, vous pouvez l'attendre un petit peu de temps, surtout si c'est mal accompagné, etc., etc. Si vous prenez des solutions, on va dire, standard sur le marché, même si vous faites quelques petits développements, ça coûte un petit peu d'argent, mais comme le disait tout à l'heure Guillaume, au bout de 2-3 affaires, on se rend compte très rapidement qu'on amortit l'outil sur l'année avec 2-3 belles affaires qui ont été acquises grâce au savoir qui a circulé sur la plateforme. Sur des outils, je dis bien, qui sont relativement standards avec quelques développements. Si en revanche, vous cherchez la Rolls qui vous a coûté une fortune, que ce n'est pas accompagné, que ce n'est pas suivi, qu'il n'y a pas de KPIs, là, effectivement, les ROI, vous ne les avez jamais. Ça coûtera de toute façon toujours trop cher.
Marc Mousti.
Oui, bonjour. Alors, une première impression d'ensemble, là, en vous écoutant. Je m'imaginais que les réseaux sociaux entreprises, c'était quelque chose de beaucoup plus libre que ce que vous avez présenté. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit, par exemple, chez Lafarge, avec la multiplication des contrôles, que c'est en fait extrêmement encadré. Est-ce que ça tient au choix des entreprises qui sont sur le plateau ? Est-ce que, par exemple, pour prendre un problème que vous êtes deux, je crois, avoir évoqué, on peut avoir des communautés qui soient plutôt orientées vers l'innovation, vers la recherche, etc., et qui puissent fonctionner comme des communautés de pratique spontanées sur le web, c'est-à-dire en choisissant eux-mêmes leur community manager et en ayant une ouverture sur des gens qui font la même chose à l'extérieur de l'entreprise.
Je vais simplement répondre. Je vous ai dit, on avait deux outils. On a un outil de knowledge management collaboratif et un réseau social. L'outil de knowledge management est très il y a une gouvernance très forte et les gens font pas n'importe quoi parce qu'une bonne pratique qui est mise en ligne ou un document qui est mis en ligne peut être récupéré par 20 000 personnes dans la seconde qui suit et s'il y a une erreur dedans, ben, l'erreur, elle se communique 20 000 fois. Donc c'est dangereux. C'est pour ça qu'on vérifie qu'il y a des workflows. En revanche, et c'est pourquoi on a deux outils, le réseau social, il est absolument libre. Les gens font ce qu'ils veulent, ils discutent avec qui ils veulent, ils ouvrent le réseau sur l'extérieur. C'est pourquoi on a deux outils pour les deux usages qui sont deux usages complètement différents. Les deux sont collaboratifs, mais ne travaillent pas de la même manière.
Mais si, dans le réseau social, est-ce que vous suivez les conversations ? Est-ce que les gens se sentent épiés ?
Non, il n'y a pas de modérateur du tout.
Peut-être pour rebondir, je pense aussi qu'effectivement, les RSE sont révélateurs de la culture d'entreprise. Et donc peut-être celles qui sont ici peuvent donner l'impression de plus contrôler que d'autres. Un exemple d'entreprise qui a voulu vraiment laisser une totale liberté de création de communauté, c'était Orange avec son RSE Orange Plaza. Après, la limite, ça va être si on laisse une totale liberté, où il n'y a aucun contrôle, aucune demande d'autorisation pour créer une communauté. La limite, c'est qu'on se retrouve facilement avec des centaines, voire des milliers de communautés, avec le risque qu'on ait trois communautés qui fassent des choses identiques, chacun dans leur coin, et que finalement, on ne s'y retrouve plus du tout, parce qu'on a trop de communautés.
Moi, je peux vous donner notre témoignage en termes de gouvernance. On était parti au départ du projet sur quelque chose d'assez coercitif, parce que c'est un peu notre culture, on aime bien contrôler que les choses soient bien faites. Finalement, en avançant, l'équipe de dirigeants de JC2CO s'est un peu décontractée. Donc finalement, ce qui était notamment la charte d'utilisation, qui était un document de 15 pages, beaucoup rédigé par l'équipe juridique, est devenu plutôt des conseils d'utilisation de 4 pages avec finalement assez peu de dimension juridique. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on n'autorise pas directement la création d'une communauté. On demande aux gens de remplir un document d'une page qui s'appelle un passeport, ce qui nous sert juste, nous, à vérifier la non-redondance de la nouvelle communauté créée avec une autre. Donc on vérifie comme ça qu'il n'y a pas de conflit et qu'on ne se retrouve pas un mois plus tard à devoir mettre autour de la table des gens en leur demandant de fusionner leur communauté respective. Et ensuite, on impose une deuxième règle qui est que chaque communauté est au minimum un responsable. Dans les faits, parfois, elles ont des binômes, etc., qui ne servent pas forcément de modérateur, mais qui au moins est un interlocuteur pour nous. Et derrière, nous, on regarde régulièrement, on fait des points. Alors, ça, avec l'essor des communautés, ça devient compliqué, mais on regarde ce qui se passe en termes d'interaction sur la communauté. Et il nous est arrivé d'en faire fermer parce qu'il se passait rien dedans. Parce qu'on ne veut pas que l'outil soit sous-utilisé et qu'on ait des communautés mornées, donc les communautés qui ne décollent pas. On propose des réunions et de faire un point, etc. On propose des idées de relance. On discute et si la communauté ne décolle pas, on la ferme.
Oui, vous aviez dit tout à l'heure, vous regrettiez qu'il n'y ait pas plus de liberté d'expression. Ça va peut-être avec le fait que vous êtes assez cadré.
Là, c'était
plus... c'est une tradition où on cadrait, donc la liberté, ça ne vient pas tout
seul. Là, c'était plutôt une remarque générale. Je ne pensais pas forcément à JC2CO. J'ai une autre casquette, je suis par ailleurs président de l'Association française de communication interne. Et en tant que tel, j'aimerais bien que... Je pense que les réseaux sociaux pourraient, par exemple, on parle souvent de management, et je pense que, par exemple, un usage assez basique d'un réseau social d'entreprise serait de faire des comités de managers pour que les managers s'entraident, discutent de leurs problèmes. Alors, ça implique de l'intimité, on ne va pas faire ça à 300, mais ça pourrait être intéressant pour que soit discuté un certain nombre de sujets. Moi, j'ai tenté de le faire, ça n'a pas marché. Mais ça pourrait être aussi de discuter de sujets sociaux, c'est-à-dire d'avoir de la remontée d'informations. Sur mon site, il se passe ça, et on en discute, et qui peuvent être des contextes sociaux plus ou moins chauds, mais pas toujours d'ailleurs, et discuter de ce que les sociologues appellent les irritants dans les entreprises, c'est-à-dire des petits bobos du quotidien. Dans une usine, la douche qui marche pas bien et puis qui parfois débouche sur une grève. Et ça pourrait remonter par une communauté dédiée qui ne serait pas une communauté visible par tout le monde. Et ça pourrait faire beaucoup de bien, je pense, en termes de performance sociale et donc économique.
Donc je suis Eric de Beauvoir, la société c'est YouKnow et nous sommes des éditeurs de MOOC. Donc on s'intéresse à la formation en ligne. Moi, ce qui m'intéresse dans ce que vous avez donné, on a vu qu'il y avait très peu d'ouverture vers l'extérieur. Il y a eu juste une personne qui en a parlé. Et je voulais savoir comment est-ce que vous pouvez intégrer le réseau social vers d'autres choses à l'intérieur de l'entreprise, notamment tout ce qui concerne l'information. Sachant que moi, je vais vous donner deux exemples. Je suis INSEAD. Et à l'INSEAD, en fait, c'est un peu compliqué. On a deux réseaux sociaux. On a Yammer, où il y a tous les enseignants, tout le personnel de la faculté d'INSEAD, tous les étudiants et tous les anciens. Et puis, on a une communauté d'anciens élèves, d'alumni, où là, on a un autre réseau, c'est Collaborn, qui a été en fait créé par un ancien MBA de l'INSEAD. Donc, ces deux réseaux ne communiquent pas entre eux, ce qui est extrêmement pénible. Et en revanche, ces réseaux communiquent vers d'autres choses. C'est-à-dire que le réseau de l'INSEAD communique avec la plateforme emploi, qui sert à la fois aux étudiants et aux alumni. Et à l'inverse, Collaborn, lui, est plus centré sur la gestion des associations nationales, avec des développements précis qui ont été rajoutés, donc du fait sur mesure, pour l'édition d'événements, avec des API pour intégrer toutes les données LinkedIn automatiquement dans Collaborn, etc., etc. Donc moi, j'aimerais avoir un peu, de votre part, des exemples d'ouverture à la fois sur l'interne, plus particulièrement sur l'information, et à la fois sur l'externe.
Juste un chiffre pour commencer à vous répondre. D'après les éléments que j'ai pu obtenir, il y a seulement à peu près 20% des réseaux sociaux internes qui sont ouverts à des personnes qui ne sont pas salariées de l'entreprise. Donc, c'est-à-dire l'ouverture à des clients, des fournisseurs, des experts extérieurs, etc. Donc, seulement 20% qui seraient ouverts vers l'extérieur.
Je voudrais simplement rajouter que nous, toutes les formations en ligne, qu'elles soient vidéo, texte, e-learning, sont accessibles via la plateforme.
Nous, on fait partie du pourcentage des entreprises qui ne sont pas encore ouvertes sur l'extérieur. C'est lié à un changement de version dans notre plateforme collaborative. On a envie d'y aller parce qu'il y a un potentiel, notamment avec des prestataires. Moi, par exemple, dans mes projets en termes de communication, je rêverais de pouvoir travailler avec, par exemple, une agence de communication et d'arrêter d'échanger des fichiers à longueur de journée par email, par exemple. Donc j'en rêve, ça va bientôt se faire. On y pense avec les clients, mais ça demande vraiment de rentrer dans le détail parce qu'il y a parfois des projets CRM qui sont déjà en œuvre. Il y a rapidement des problèmes d'interfaçage avec d'autres outils de l'entreprise et des outils parfois lourds. Donc pour le coup, on perd la légèreté de ces plateformes-là qui sont assez légères à mettre en œuvre. Parfois, ça ne débouche pas rapidement, mais moi, je sens une envie en tout cas parce qu'effectivement, comme on le dit, il y a une porosité. Donc de toute façon, ça va forcément arriver.
La dernière séance de la soirée qu'on avait fait en janvier, on avait parlé des MOOC. Et il y avait un effet inattendu des MOOC, c'est que les profs se mettaient à écouter les autres profs, voir comment ils faisaient. C'était pas du tout prévu au départ, mais apparemment, ça a un effet très vertueux.